Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le Parlement apprécie des opérations militaires hors de la guerre. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a dit « Blambangan devient la réserve de biosphère et la preuve de la reconnaissance mondiale ». L'Indonésie fait des promotions de CPO en Europe. L'appréciation de la Russie en Indonésie pour l'organisation des élections législatives. L'Indonésie participera à l'exposition de Mani, femmes et enfants. Les exportations de café arabica de Bondowoso atteignent 1600 tonnes. Voici le journal complet. Un membre de la commission 1 du Parlement indonésien, Charles Honoris, lundi à Jakarta, a exprimé sa gratitude envers le rôle de l'armée indonésienne dans diverses opérations militaires, outre que la guerre OMSP qui avait été mise en œuvre. Comme exemple, le rôle positif de l'armée dans la gestion des catastrophes naturelles et l'envoi des casques bleus au Liban comme le contingent de Garuda. Selon lui, dans de telles opérations militaires, outre que la guerre, l'armée indonésienne a joué un rôle important pour alléger le fardeau des victimes.
Tentunya kita harus juga memberikan apresiasi terhadap beberapa kegiatan.
Bien sûr, nous devons exprimer notre reconnaissance à plusieurs activités militaires liées aux opérations militaires autres que la guerre, dans la gestion des catastrophes naturelles par exemple. Comment nos militaires sont impliqués dans l'extension des incendies de forêt, rechercher et trouver des victimes perdues d'accidents d'avions Air Asia il y a quelque temps. Nous devons également exprimer les appréciations à ce que nos militaires ont fait au Liban comme gardiens de la paix dans le contingent de Garuda. Toutefois, selon Charles Honoris, l'armée devrait également être équipée de législation pour éviter des abus de pouvoir qui est contraire à la loi militaire existante. Charles Honoris a également encouragé les efforts visant à renforcer la défense de l'armée indonésienne qui inclut la terre, la mer et l'air. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, a déclaré que la gestion des réserves de biosphère en Indonésie était la preuve de l'engagement du gouvernement à réaliser le développement durable qui est bénéfique pour les personnes. Cela a été déclaré par Mme Retno Marsudi quand elle a reçu l'ambassadeur d'Indonésie pour la France, en tant également le représentant permanent auprès de l'UNESCO, l'ambassadeur Hotmangaraja Panjaitan, à la cérémonie de présentation du certificat L'homme et la biosphère de l'UNESCO au sein du ministère des Affaires étrangères, Jakarta, lundi. Selon Retno Marsudi, la détermination Blambangan comme la 11e réserve mondiale de la biosphère montre les reconnaissances du monde sur les ressources naturelles de l'Indonésie qui doivent être protégées. Blambangan, qui est située dans 4 districts, à savoir Banyuwangi, Jember, Bondowoso et Situbondo, dans la province de Java-Est, est désignée comme la réserve de biosphère est reconnu comme l'un des membres du réseau d'une réserve mondiale de la biosphère par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. La reconnaissance a été donnée lors de la 28e réunion du Conseil international de coordination du programme L'Homme et la Biosphère tenue à Lima, au Pérou, en mars 2016. La ministre des Affaires étrangères, Rotem Marsoudi, estime que la détermination de Blambangan comme la réserve de biosphère indique que Blambangan possède le potentiel à définir comme la zone du développement durable. L'Indonésie fera la promotion du potentiel de l'huile de palme brute CPO dans quelques pays européens dans le but d'accroître l'exportation de ces produits, y compris aux hommes d'affaires et les politiciens. Le directeur du Conseil de la gestion du fonds des plantations de palmiers à huile, Bayu Krishnamurti, a dit lundi à Jakarta qu'au milieu des rumeurs négatives sur l'existence de palmiers à huile indonésiens, l'Indonésie continuera à faire une percée en Europe. L'Indonésie fera la promotion dans quelques pays tels que la Pologne, le Tchèque, la Hollande et la France. En Pologne, selon Bayu Krishnamurti, l'Indonésie participera à la conférence de l'huile de palme 2016 qui aura lieu du 5 au 6 octobre. En outre, elle va également rencontrer des responsables du ministère du Commerce et de l'Environnement polonais dans le forum d'affaires le 7 octobre. L'ambassadeur de la Russie à l'Indonésie, Michael Galuzin, lundi a remercié le gouvernement indonésien pour leur coopération dans la mise en œuvre du vote parlementaire national pour les citoyens russes vivant en Indonésie. Il a dit qu'il n'a pas trouvé de problème dans la mise en œuvre des élections à la mi-septembre. Il montre la culture de la démocratie et l'amitié profonde entre les deux pays, car il n'est pas tous les pays peuvent organiser les élections sans problème. Michael Galuzin, se référant aux incidents d'attaque contre l'ambassade de Russie à Kiev par groupe ultranationaliste ukrainien avant un même vote parlementaire le 18 septembre. Un certain nombre d'artisans indonésiens connus exposera également leurs œuvres excellentes à l'exposition internationale de la conception et le mode de vie de Mani, femme, à Pasay City, aux Philippines, du 20 au 22 octobre 2016. Mani Fami présentera également le Festival de la conception des chefs d'œuvre d'art de l'ASEAN avec le thème « L'artisanat de l'ASEAN au monde ». Le représentant du commerce des Philippines à l'Indonésie, Alma Argayoso, dans un communiqué de presse à Jakarta, a déclaré lundi « La plus grande exposition aux Philippines aura lieu au Centre mondial du commerce et au Centre philippin de la formation commerciale et affichera les œuvres des artisans connus de l'ASEAN comme Lim Masulin de l'Indonésie, Roselin Lahlong de la Malaisie, Al Valenciano des Philippines, Tuong Fiduk du Vietnam et Rus Plen Suk de la Thaïlande. Il est dit, Lim Masulin, un entrepreneur, les designers d'intérieur l'Indonésie étaient plus actifs dans le domaine de l'économie créative. Il a ajouté que près de 14 entreprises indonésiennes participeront également à Mani Fami avec le soutien du ministère des petites et moyennes entreprises. L'Association indonésienne des producteurs de café a indiqué que les exportations de café arabica dans la région de Bondowoso, l'est de Java, cette année ont atteint 1 600 tonnes. Ce chiffre a déjà dépassé l'objectif de cette année d'une 1 000 tonnes. Par conséquent, il souligne à tous les producteurs de café à Bondowoso de maintenir la qualité du café arabica, bien que la production de cette année continue de croître et de dépasser la cible. Le président de l'Association des producteurs de café indonésien, Sumarhum, a déclaré lundi à Bondowoso qu'en 2014, les agriculteurs du café arabica à Bondowoso avaient exporté le café de 529 tonnes. L'année suivante, en 2015, ces exportations ont augmenté à environ 800 tonnes. Il a ajouté, Le café arabica appartenant aux agriculteurs de café qui étaient sur la pente du mont Ijen et du mont Raung, le district Saint-Paul, jusqu'à présent exporté vers plusieurs pays d'Europe et d'Asie, tels que la Suisse, les États-Unis, la Grande-Bretagne, un certain nombre d'autres pays européens, Singapour, la Malaisie, la Corée et Taïwan. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Bonsoir, voici donc le commentaire et pour le titre « Les enseignants, la clé pour une meilleure éducation ». Chaque le 5 octobre est toujours célébré comme la Journée mondiale des enseignants. L'UNESCO a décidé cette commémoration dans le but de fournir un soutien aux enseignants partout dans le monde, en particulier à les convaincre que les futures générations sont déterminées par les enseignants. D'ailleurs, cela est également destiné à montrer la sensibilisation et l'appréciation du rôle des enseignants dans la promotion de la prochaine génération. L'UNESCO veut que les besoins des enseignants soient remplis au maximum, par exemple en fournissant des conditions de travail décentes, saines et sécuritaires. Il n'est pas un secret en Indonésie que les parents sont souvent mécontents de certains enseignants, tout simplement parce qu'ils se sentent insatisfaits de la façon des enseignants à éduquer leurs enfants. En effet, les parents ne doivent pas s'inquiéter lorsque l'éducation se déroule en conformité avec les règles de l'école. De nombreux pays connaissent des problèmes avec le nombre insuffisant des enseignants qui sont vraiment qualifiés et professionnels. Ce n'est pas étonnant, les problèmes d'éducation deviennent souvent un outil politique pour attaquer le gouvernement parce qu'il est considéré de ne pas être en mesure de dispenser les installations scolaires adéquates comme les enseignants et les bonnes écoles. Les politiciens, surtout pendant la campagne, ont soulevé assez souvent la question de l'éducation gratuite pour tout le monde au niveau collégial. Ceci est très idéaliste, mais bien sûr, il doit être ajusté avec les conditions économiques du pays. Les promesses d'améliorer le bien-être des enseignants sont également souvent exprimées pour attirer la sympathie. Sans doute en Indonésie, en particulier dans certaines régions, les enseignants sont souvent encore un modèle de rôle. Le public choisira les dirigeants de certaines personnalités politiques qui ont reçu une recommandation d'enseignants. À l'occasion de la Journée internationale des enseignants, il est approprié que les enseignants indonésiens obtiennent plus d'attention. Ils doivent profiter non seulement en revenu adéquat, mais aussi la sécurité, la paix dans le lieu de travail ainsi que l'indépendance qui ne sont pas facilement influencées par la crise politique dans le pays. Les enseignants sont l'une des clés très importantes pour rendre la grande nation. Chers amis, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 4 octobre 1957, la navette spatiale de l'Union soviétique Sputnik 1 était lancée. Le programme spatial de l'Union soviétique était un programme ambitieux pour conquérir l'espace cosmique. Le premier pas de ce programme est la réussite du lancement du premier satellite du monde qui s'appelait Sputnik 1, le 4 octobre 1957, suivi par la mission du premier être humain, Yuri Gagarin, qui explorait le cosmique autour de la Terre la première fois en 1961. Le sommet de ce programme était la réussite du lancement de la première station spatiale, le lancement de Salyut 7, comme la première station spatiale, était suivi par le lancement de Mir, comme la première station spatiale habitée par humains en permanence. Généralement, le programme spatial de l'Union soviétique a gagné meilleur succès que celui des États-Unis. L'effondrement de l'Union soviétique a mis fin à tout le programme et ensuite la Russie, comme la successeur de l'Union soviétique, préférait à joindre le consortium international pour développer l'ISS ou International Space Station. Le 4 octobre 1999, Maluku du Nord était officiellement devenu en province. Maluku du Nord est l'un des provinces en Indonésie. Maluku du Nord était officiellement formé le 4 octobre 1999 par la loi de la République Indonésie numéro 46, l'année 1999, et la loi de la République Indonésie numéro 6, en 2003. Auparavant, Maluku du Nord faisait partie de province Maluku comme la régence de Maluku du Nord et la régence de Halmahera centrale. Après être devenue en province séparée, la capitale de Maluku du Nord était Ternate, une ville en bas de la montagne Gamalama, pendant 11 ans, précisément jusqu'au 4 août 2010. Après avoir passé une grande transition et préparation d'infrastructures, Sofifi, une ville à l'île Halmahera, la plus grande île à Maluku du Nord, est devenue la capitale de Maluku du Nord. Le 4 octobre 2000, Banten s'est séparé de Java West et devenait en Nouvelle-Provence en Indonésie. Banten était précédemment partie de province Java West, mais s'est séparé en 2000 par la loi de la République Indonésie numéro 23, l'année 2000. Le centre gouvernemental de Banten se trouve à la ville de Serang. Les zones maritimes de Banten est l'une des zones commerciales potentielles. Le détroit Sunda est une zone commerciale maritime très stratégique car il est capable de circuler des grands vaisseaux qui connectent l'Australie et la Nouvelle-Zélande avec les zones maritimes de l'Asie du Sud-Ouest comme le Thaïlande, la Malaisie et Singapour. En plus, Banten est la zone transitive de Java et Sumatra. Géographiquement, la ville de Tangerang, qui fait aussi partie de Banten, est une ville qui fournit directement la capitale de l'Indonésie, Jakarta. Chers auditeurs, voilà l'histoire d'aujourd'hui. Au revoir.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Le gouvernement indonésien augmentera la valeur de taxes sur les cigarettes ». Le gouvernement indonésien a décidé d'augmenter la valeur de taxes sur les cigarettes pour l'année 2017. On espère que cette augmentation peut ajouter le revenu de l'État de 149,8 trillions rupiah. Le gouvernement se rend compte de l'impact du tabagisme sur la santé publique. Il est donc nécessaire de contrôler et de surveiller la circulation de la consommation de tabac. Comme l'a déclaré le ministre des Finances, Mme Sri Mulyani, lors d'une conférence de presse au bureau des douanes à Jakarta vendredi, l'augmentation tarifaire imposée sur les produits du tabac et le prix de détail. L'augmentation des taxes sur le tabac entre 10 jusqu'à 13,4%, ça dépend des espèces. Madame Sri Mulyani a expliqué que l'augmentation de la taxe sur les cigarettes a été discutée dans les différentes parties prenantes, ce qui est préoccupé par la santé et l'emploi, le cultivateur de tabac et l'association des compagnies de tabac. Elle a également organisé des réunions et des discussions avec les autorités locales, les fondations et l'université. Basée sur des réunions et des discussions, la conclusion que l'augmentation des impôts est une étape qui doit être prise dans le but de contrôler la consommation et la production. Mais cette augmentation doit être équilibrée pour qu'il n'y ait pas de l'impact négatif sur la disponibilité d'emploi et les essences de survie pour les petites industries. Dans la sécurité de la fiscalité, le gouvernement a augmenté cette année de surveillance, surtout liée à la circulation de la machine à fabriquer des cigarettes. Ceci est en ligne avec les données de renseignement et le résultat de l'enquête que l'infraction est la plus grande machine à gaz de cigarettes pour assurer l'efficacité et aussi obtenir les bons résultats. Selon Madame Sri Mulyani, la Direction générale des douanes effectuera la collecte des données fabricants de cigarettes en coopération avec le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie et d'autres organismes. Il espère que cela produit une bonne acceptation dans le secteur d'Asis. Le président de l'Association des producteurs de cigarettes indonésiennes, M. Mohaimin Mufti, a déclaré que la fixation des taux d'imposition fixés par le gouvernement au-delà du calcul des producteurs de cigarettes, l'augmentation de l'accise, selon M. Mohaimin Mufti, est assez élevée parce que les producteurs de cigarettes ont déposé une augmentation de la taxe dans le taux d'inflation en général. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Un membre de la commission 1 du Parlement indonésien, Charles Honoris, lundi à Jakarta, a exprimé sa gratitude envers le rôle de l'armée indonésienne dans diverses opérations militaires, outre que la guerre OMSP qui avait été mise en œuvre. Comme exemple, le rôle positif de l'armée dans la gestion des catastrophes naturelles et l'envoi des casques bleus au Liban comme le contingent de Garuda. Selon lui, dans de telles opérations militaires, outre que la guerre, l'armée indonésienne a joué un rôle important pour alléger le fardeau des victimes.
Tentunya kita harus juga memberikan apresiasi terhadap beberapa kegiatan yang dilakukan oleh personel TNI.
Bien sûr, nous devons exprimer notre reconnaissance à plusieurs activités militaires liées aux opérations militaires outre que la guerre, dans la gestion des catastrophes naturelles par exemple. Comment nos militaires sont impliqués dans l'extension des incendies de forêt, rechercher et trouver des victimes perdues d'accidents d'avion Air Asia il y a quelque temps. Nous devons également exprimer les appréciations à ce que nos militaires ont fait au Liban comme gardiens de la paix dans le contingent de Garuda. Toutefois, selon Charles Honoris, l'armée devrait également être équipée de législation pour éviter des abus de pouvoir qui est contraire à la loi militaire existante. Charles Honoris a également encouragé les efforts visant à renforcer la défense de l'armée indonésienne qui inclut la terre, la mer et l'air. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, a déclaré que la gestion des réserves de biosphère en Indonésie était la preuve de l'engagement du gouvernement à réaliser le développement durable qui est bénéfique pour les personnes. Cela a été déclaré par Mme Retno Marsudi quand elle a reçu l'ambassadeur de l'Indonésie pour la France, en tant également le représentant permanent auprès de l'UNESCO, l'ambassadeur Hotmangaraja Panjaitan, à la cérémonie de présentation du certificat L'Homme et la Biosphère de l'UNESCO au sein du ministère des Affaires étrangères, Jakarta, lundi. Selon Retno Marsudi, la détermination Blambangan comme la 11e réserve mondiale de la biosphère montre les connaissance du monde sur les ressources naturelles d'Indonésie qui doivent être protégées. Blambangan, qui est situé dans 4 districts, à savoir Banyuwangi, Jember, Bondowoso et Situbondo, dans la province de Java-Est, est désigné comme la réserve de biosphère et est reconnu comme l'un des membres du réseau d'une réserve mondiale de la biosphère par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. La reconnaissance a été donnée lors de la 28e réunion du Conseil international de coordination du programme L'Homme et la Biosphère tenue à Lima au Pérou en mars 2016. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, estime que la détermination de Blambangan comme la réserve de biosphère indique que Blambangan possède le potentiel à définir comme la zone du développement durable. L'Indonésie fera la promotion du potentiel de l'huile de palme brute CPO dans quelques pays européens dans le but d'accroître l'exportation de ces produits, y compris aux hommes d'affaires et les politiciens. Le directeur du Conseil de la gestion du fonds des plantations de palmiers en huile, Bayu Krishnamurti, a dit lundi à Jakarta qu'au milieu des rumeurs négatives sur l'existence de palmiers en huile indonésiens, l'Indonésie continuera à faire une percée en Europe. L'Indonésie fera la promotion dans quelques pays tels que la Pologne, le Tchèque, la Hollande et la France. En Pologne, selon Bayu Krishnamurti, l'Indonésie participera à la conférence de l'huile de palme 2016 qui aura lieu du 5 au 6 octobre. En outre, elle va également rencontrer des responsables du ministère du Commerce et de l'Environnement polonais dans le forum d'affaires le 7 octobre. L'ambassadeur de la Russie à l'Indonésie, Michael Galuzin, lundi a remercié le gouvernement indonésien pour leur coopération dans la mise en œuvre du vote parlementaire national pour les citoyens russes vivant en Indonésie. Il a dit qu'il n'a pas trouvé de problème dans la mise en œuvre des élections à la mi-septembre. Il montre la culture de la démocratie et l'amitié profonde entre les deux pays, car il n'est pas tous les pays peuvent organiser les élections sans problème. Michael Galuzin, se référant aux incidents d'attaque contre l'ambassade de Russie à Kiev par groupe ultranationaliste ukrainien avant un même vote parlementaire le 18 septembre. Un certain nombre d'artisans indonésiens connus exposera également leurs œuvres excellentes à l'exposition internationale de la conception et le mode de vie de Mani, femme, à Pasay City aux Philippines du 20 au 22 octobre 2016. Mani Fami présentera également le festival de la conception des chefs d'œuvre d'art de l'ASEAN avec le thème l'artisanat de l'ASEAN au monde. Le représentant du commerce des Philippines à l'Indonésie, Alma Argayoso, dans un communiqué de presse à Jakarta a déclaré lundi: la plus grande exposition aux Philippines aura lieu au Centre mondial du commerce et au Centre philippin de la formation commerciale et affichera les œuvres des artisans connus de l'ASEAN comme Lim Masulin de l'Indonésie, Roselin Lahlong de la Malaisie, Al Valenciano des Philippines, Tuong Fiduk du Vietnam et Rus Plen Suk de la Thaïlande. Il est dit, Lim Masulin, un entrepreneur, les designers d'intérieur l'Indonésie étaient plus actifs dans le domaine de l'économie créative. Il a ajouté que près de 14 entreprises indonésiennes participeront également à Mani Fami avec le soutien du ministère des petites et moyennes entreprises. L'Association indonésienne des producteurs de café a indiqué que les exportations de café arabica dans la région de Bondowoso, l'est de Java, cette année ont atteint 1 600 tonnes. Ce chiffre a déjà dépassé l'objectif de cette année d'une 1 000 tonnes. Par conséquent, il souligne à tous les producteurs de café à Bondowoso de maintenir la qualité du café arabica, bien que la production de cette année continue de croître et de dépasser la cible. Le président de l'Association des producteurs de café indonésien, Sumarhum, a déclaré lundi à Bondoso qu'en 2014, les agriculteurs du café arabica à Bondoso avaient exporté le café de 529 tonnes. L'année suivante, en 2015, ces exportations ont augmenté à environ 800 tonnes. Il a ajouté, le café arabica appartenant aux agriculteurs de café qui étaient sur la pente du mont Ijen et du mont Raung, le district Saint-Paul, jusqu'à présent exporté vers plusieurs pays d'Europe et d'Asie, tels que la Suisse, les États-Unis, la Grande-Bretagne, un certain nombre d'autres pays européens, Singapour, la Malaisie, la Corée et Taïwan. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Pour la suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec Apprendre l'Indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers fidèles amis, la Voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, voici le magazine de Pesan Indonesia ou magazine de la culture. Et pour ce soir, nous allons vous emmener dans le voyage culinaire à la ville de Brebes, qui se situe en province de Java centrale. Alors, restez avec nous au RRI World Service, la Voix de l'Indonésie. Vous pouvez écouter non seulement par en course sur 9525 kHz, ou bien avec le streaming www.voi.co.id. Chers amis, la ville de Brebes est un quartier dans le centre de Java, qui est directement adjacent à la ville de Cirebon en province de Java de l'Ouest. Pour Brebes, l'oignon rouge est un icône commercial parce que Brebes est le plus grand producteur de l'oignon en Indonésie. Le centre de producteurs de l'oignon se disperse dans 11 districts de 17 districts de Brebes, avec la superficie récoltée par an 20 000 à 25 000 hectares. Outre d'être connu en tant que producteur de l'oignon, la ville de Brebes a également de nombreuses destinations touristiques attrayantes. Donc, pour ceux qui sont en vacances en Indonésie, allez visiter la ville de Brebes et profitez de sa beauté et sa singularité. Pour ceux qui se sont rendus visite à Brebes, de ne pas oublier d'essayer la gastronomie typique à cette région. On doit essayer le saté blengong, ou on peut dire le kebab traditionnel de Brebes. Le saté est des aliments à la base de viande en petits morceaux, puis poignardé avec le bâton de bambou et brûlé ou grillé avec le charbon de bois. Étant donné le nom de blengong car il est fabriqué à partir de la viande de blengong. Blengong, c'est-à-dire le volaille qui est combiné ou mixé ou mariagé entre le canard et avec un rash de canard local. En Brebes, la population de volaille est tout à fait beaucoup parce que beaucoup de gens locaux qui gardent le blengong. Par rapport à la viande de canard sauvage et le canard domestique, sa viande a la texture plus douce et non poisson. Chers amis, la saté blengong est différente que les autres saté ou brochettes. Les saté blengong provenant de tiges de bambou qui sont des coupes plus grandes et plus longues. La viande est présentée comme la taille d'un pouce. Dans une brochette, il y a seulement 7 morceaux de viande. En outre, il dispose aussi de tous les types de variantes saté blengon. Le premier, le saté blengon grillé, est celui en cuit. Saté grillé, c'est-à-dire cuit par le feu avec le charbon comme en général. Cependant, faire cuire le brochet, la viande bouillie avec la noix de lait de coco, ajouter 20 herbes et poignarder avec une longueur de bâton de bambou. Servi les amis comme saté en général, le saté de blengon est servi avec la sauce au arachide. Pour être plus délicieux, le saté est mangé avec kupat, c'est-à-dire ketupat. Le kupat est fabriqué par la base de riz cuit en emballant avec le veille de bananier. Le kupat ou ketupat servi avec un peu de lait de noix de coco et qui n'est pas si épais est donné avec une variété d'épices. Puis sur le dessus de celui-ci, ou c'est-à-dire le plat, on met le craqueline avec des oignons frites. Ce culinaire est facile à trouver dans la ville de Brebes. Par exemple, dans le parc de la ville de Brebes. Pour le prix, le coût de saté blengon grillé est 60 000 rupiah ou à peu près 2,5 euros pour 20 brochettes. Cependant, pour le saté blengon en cuit, coûte 6 000, c'est-à-dire 6 000 rupiah, c'est-à-dire 1,5 euro par brochette, et le prix de ketupat est 12 000 par portion, c'est-à-dire moins de 1 euro. Chers amis, c'était le magazine de Pesan Indonesia ou magazine de la culture édition de mardi avec le thème Le saté blengon de la ville Brebes. Merci de votre fidélité et attention. Au revoir. À demain.
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et qui vous guide de parler l'indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est di pantai, ou en langue française veut dire à la plage. Di pantai. Tout d'abord, je vais introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois. Et vous pouvez répéter après moi. Ke pantai. Ke pantai. Aller à la plage. Hari Minggu. Hari Minggu. Dimanche. Rekreasi. Rekreasi. Récréation. Berlibur. Berlibur. Passer des vacances. Menyenangkan. Menyenangkan. Amusant. Duduk. Duduk. S'asseoir. Di kursi pantai. Di kursi pantai. Sur la chaise de la plage. Payung tenda. Payung tenda. tente parapluie. Di bawah, dessous. Melihat, melihat, voir. Bermain ski air. Bermain ski air. Jouer de ski nautique. Berselancar. Berselancar. Surf. Membuat. Membuat. Faire. Istana pasir. Istana pasir. Château de sable. Berjemur. Berjemur. Bain de soleil. Berenang. Berenang. Nager. Membawa. Membawa. Porter. Topi pelindung matahari. Topi pelindung matahari. Chapeau de soleil. Krim tabir surya. Krim tabir surya. La crème solaire. Kacamata hitam. Kacamata hitam. Lunette de soleil. Makanan. Makanan. Nourriture. Minuman. Minuman. Boisson. Jemput. Menjemput. Ramasser. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « di pantai » ou en langue française veut dire « à la plage ». Comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. Vous pouvez répéter après moi. C'est une conversation entre Novi, A, et Yuli, B, au bureau. A. Yuli, bagaimana kalau hari Minggu kita ke pantai? Yuli, bagaimana kalau hari Minggu kita ke pantai? En français, Yuli, que diriez-vous si le dimanche nous allons à la plage? B. Hari Minggu, baiklah. Hari Minggu, baiklah. En français, le dimanche, d'accord. Saya juga sudah ingin rekreasi. Saya juga sudah ingin rekreasi. En français, je veux aussi faire la récréation. Berlibur di pantai sangat menyenangkan. Berlibur di pantai sangat menyenangkan. En français, passer des vacances à la plage est très amusant. A. Ya, di pantai kita bisa duduk di kursi pantai di bawah payung tenda. Ya, di pantai kita bisa duduk di kursi pantai di bawah payung tenda. En français. Oui, sur la plage, nous pouvons nous asseoir sur la chaise de plage sous une tente parapluie. Kita bisa duduk sambil melihat orang bermain ski air dan berselancar. Kita bisa duduk sambil melihat orang bermain ski air dan berselancar. Kita bisa duduk sambil melihat orang bermain ski air dan berselancar. En français, nous pouvons nous asseoir en regardant ceux qui jouent le ski nautique et le surf. Juga bisa melihat anak-anak membuat istana pasir. Juga bisa melihat anak-anak membuat istana pasir. En français, nous pouvons aussi voir les enfants faire des châteaux de sable. B. Ya, kalau kamu mau, selain berjemur, kamu juga bisa snorkeling atau berenang. Ya, kalau kamu mau, selain berjemur, kamu juga bisa snorkeling atau berenang. En français, oui, si vous voulez, outre de faire le bain de soleil, vous pouvez aussi faire de la plongée ou nager. A. Kalau pergi ke pantai, jangan lupa bawa topi pelindung matahari dan krim tabir surya, juga kacamata hitam. Kalau pergi ke pantai, jangan lupa bawa topi pelindung matahari dan krim tabir surya, juga kacamata hitam. En français, si vous allez à la plage, n'oubliez pas d'apporter le chapeau de soleil et la crème solaire, ainsi que des lunettes de soleil. B. Dan yang penting, jangan lupa membawa makanan dan minuman. Dan yang penting, jangan lupa membawa makanan dan minuman. En français, et surtout, n'oubliez pas d'apporter de la nourriture et des boissons. A. Baiklah, saya jemput kamu. Baiklah, saya jemput kamu. En français, très bien. Je vous ramasse. Sampai jumpa hari Minggu. Sampai jumpa hari Minggu. En français, rendez-vous le dimanche. C'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que ce programme soit utile pour vous. Merci de votre fidèle attention. À demain.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical, un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit pop et dangdut. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voce.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse de dangdut, Yulia Chitra. Voici sa première chanson intitulée « Derrière la tente ». Bonne écoute.
Saat ku melihat
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée « Derrière la tente » chantée par Yulia Chitra. La chanson raconte la trahison de l'amour. Conformément à l'histoire de cette chanson, la musique créée par Giorgia Erge est si triste. Sa musique apporte la musique d'Andoutpour avec des nuances ethniques dominantes qui est convenable avec la voix mélancolique de Yulia. L'ajout des nuances musicales ethniques dominantes renforce l'histoire de la chanson derrière la tente, parce que l'histoire de la chanson à l'arrière-fond dans l'ouest de Sumatra. Cette chanson est l'une des 10 chansons dans son premier album en solo après que Yulia Chitra ait rejoint le groupe de dangdut Manis Manja Group. L'album, produit en 1994, était le résultat de sa collaboration avec les arrangeurs célèbres Mouhtar B, Giorgia Erge et Ali Ababil, ainsi que les compositeurs célèbres de dangdut tels que Endang Kurnia et B Makayok. Cet album était succès sur le marché. Grâce à cette chanson, la carrière de chanteuse dont le vrai nom est Yulitin était meilleure. Non seulement le succès avec son premier album, les albums suivants de Yulia Chitra, comme Ta Fête Ma Douleur et Broder le Tissu Brésil, ont été aussi bien reçus par les amateurs de musique de dangdut dans le pays. Bon, chers auditeurs, avant de bien connaître Yulia Chitra, voici sa chanson intitulée Ta Fête Ma Douleur. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditrices, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.